إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Donc concernant le dernier cours, nous avons parlé sur la façon d'accomplir les ablutions et comment le prophète alayhi salatu wa salam mettait en pratique cet acte d'adoration. Certains points que on n'a pas précisés, parmi lesquels que lorsque on lave les pieds, d'abord le pied droit puis le pied gauche, à 3 reprises chacun, on n'oublie pas de passer l'auriculaire, le petit doigt, l'auriculaire de la main gauche entre les orteils, puisque les pieds, on les lave avec la main gauche. Le pied droit et le pied gauche, on les lave avec la main gauche. Et on passe l'auriculaire entre les orteils. Au début, l'imam Malik, rahimahullah, ne voyait pas qu'on passe le doigt entre les orteils. Et dans une assise de science, on lui a posé la question et il a dit qu'il ne fallait pas le faire parce qu'il n'avait pas de texte qui le demandait. Donc pour lui, il fallait laver le pied sans passer l'auriculaire entre les orteils. Un de ses grands élèves, si je ne me trompe, c'était Ibn Wahb, rahimahullah, rahimahullahu jami'a, Ibn Wahb a attendu la fin du cours. Et il est venu voir l'imam Malik, rahimahullah, et il lui a dit, j'ai un hadith à ce sujet. Et il lui a cité la chaîne de narration jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam, comme quoi il passait bien son auriculaire entre les orteils. Et l'imam Malik, rahimahullah, lorsqu'il a entendu cette chaîne de narration, il a dit, ce hadith est bon. Et puis, Ibn Wahb a dit, plus tard, lorsque l'imam Malik, on lui posait la question, il disait qu'il fallait passer le petit doigt entre les orteils. طيب قال المؤلف حفظه الله تعالى نواقض الوضوء. L'auteur, Allah le préserve, nous dit ce qui annule les annulations des ablutions. للوضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه. Donc, les ablutions ont des annulations qui l'annulent et qui le sortent ce pourquoi ils ont été accomplis. Les ablutions. Si on accomplit les ablutions, c'est pour être en état de purification, pour pouvoir accomplir des actes d'adoration précis, avec ces ablutions. En perdant les ablutions sont annulées, et on ne pourra plus accomplir ces choses pour lesquelles les ablutions ont été instituées. Kassalati wa ghayriha, comme pour la salat ou autre. أولاً كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر ويشمل ذلك البول والغائط والفساء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه مسلم. Donc tout ce qui sort des deux parties intimes, le devant et le derrière, dès que quelque chose sort d'une de ces parties, les ablutions sont annulées, que ce soit de l'urine, les excréments, un gaz. Dès qu'il y a ces choses-là qui sortent, eh ben, les ablutions sont annulées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'accepte pas la salat de l'un d'entre vous lorsqu'il a perdu les ablutions jusqu'à qu'il accomplisse à nouveau les ablutions. Rapporté par Muslim. Thaniyan, khuruj al-madi والودي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ، متفق عليه. Deuxièmement, ça rejoint le premier c'est bien plus général comme précision, mais là c'est un peu plus concis ou un peu plus précis que la généralité de ce qu'on a vu dans la première annulation des ablutions, c'est lorsque le mehdi et le wadi sortent. El mehdi, c'est un liquide léger, clair, qui sort lorsque l'homme a des pensées érotiques. Hein, il pense à son épouse, il a des pensées, il a des envies, et ben, il a ce liquide qui sort. On appelle ça le... En français, comment ça s'appelle ? Le liquide prostatique, c'est ça, le liquide prostatique. Donc ce liquide là lorsqu'il sort, et voilà les raisons pour lesquelles il sort, et ben ça annule les ablutions. El wali, c'est un liquide qui est bien plus gras et plus fort, et il est blanc, et ça ressemble un peu au sperme, mais ce n'est pas du sperme. Et en général, Al-Wali sort après les urines. Après les urines. Donc ça, ça s'appelle Al-Wali. Et Al-Mazi et Al-Wali annulent les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant Al-Mazi que la personne qui lui arrive cela, qu'il lave son sexe, qu'il le nettoie, puis qu'il recommence les ablutions. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ça, c'est important à savoir, parce qu'il se pourrait qu'il y en a qui se posent la question: est-ce que ça annule que les ablutions, ou ça annule aussi les grandes ablutions, Al-Rusul? Non, ça n'annule pas les grandes ablutions, ça n'annule que les petites ablutions. Donc celui qui a cela, il se doit de se nettoyer, de laver son sexe convenablement, puis de nettoyer le vêtement qui a été touché. Et il suffit de prendre une poignée d'eau, un peu d'eau dans sa main, et d'asperger sur la partie de vêtement qui a été touchée. Il suffit d'asperger de l'eau dessus. C'est-à-dire que l'eau prenne le dessus, et la personne, elle peut garder ce vêtement-là, et refaire ses ablutions, et accomplir la salat. ثالثا النوم المستغرق المعروف مع عدم تمكن المقعدة لأنه مظنة الحدث وهو الذي يترجح معه في العادة خروج الريح. Donc troisièmement, le sommeil profond, le vrai sommeil, quand la personne vraiment elle dort jusqu'à ne plus savoir ce qui se passe autour d'elle, elle n'entend plus. Si elle avait quelque chose dans la main, à portée de sa main, et elle est tombée de cette chose-là, il ne l'a même pas ressenti. Ça, c'est ce qu'on appelle un sommeil lourd. Un vrai sommeil. Comme le sommeil de la nuit. Donc, la personne qui a vraiment dormi, ce sommeil réel, lorsqu'il se réveille, ce sommeil-là lui a fait perdre ses ambitions. Lui a annulé ses ambitions. Parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé pendant son sommeil. Il suppose qu'il y a eu des lâchements de gaz sans le savoir. Donc il se doit de recommencer les ablutions. Mais si quelqu'un dormait à moitié, un sommeil qui n'est pas profond, il entend encore les paroles des gens, même s'il n'assimile pas vraiment ce qu'ils disent. Il avait quelque chose dans sa main, lorsque c'est tombé, il a réagi à ce qui vient d'arriver. Ça, ce n'est pas un sommeil lourd. La personne, elle a encore plus ou moins conscience. Donc, tant qu'il est sûr qu'il n'a pas annulé, il n'a pas perdu ses ambitions, il n'aura pas à aller recommencer. Parfois, ça arrive même dans la mosquée, quand c'est le soir pour l'Isha, et qu'on tarde à faire ça pour l'Isha, il y a des gens qui sont assis, sont à moitié endormis. Celui qui est à côté, il croit qu'il est en train de dormir, mais en vérité, dès que sa tête elle penche, hop, il la relève. Il avait un livre dans sa main, il tombe, il le rattrape. Cette personne-là n'a pas eu un sommeil profond, donc tant qu'il n'a pas perdu ses ambitions, il n'a pas à aller recommencer. Et ça arrivait même aux Sahaba, ce genre de réaction, lorsqu'ils attendaient le prophète en train pour s'appeler Isha, et parfois ils tardaient à venir, alayhi salatu wassalam. Les Sahaba étaient assis en attendant, et parfois il y en avait qui étaient pris par le sommeil, mais ils n'ont pas eu le sommeil profond. Donc ce qui annule, en général, c'est le sommeil de la nuit. Le sommeil de la nuit que tout le monde dort, un sommeil profond, c'est ce qui annule les ambitions. رابعا زوال العقل سواء كان بالجنون او الاغماء او بالسكر او بالدواء de perdre la raison. De perdre la raison annule les ablutions. Que ce soit par la folie, quelqu'un il devient fou, ou il s'évanouit, un évanouissement annule les ablutions. Ou alors, quelqu'un, qu'Allah nous en préserve, il est saoul, il est ivre. Pendant ce moment-là, il n'a plus sa raison. Le fait d'être ivre fait perdre les ablutions. Ou alors, c'est des médicaments qui lui ont aussi fait perdre à cause de médicaments ou de produits qu'il a pris, il perd la raison, et bien il se devra, une fois la raison revenue, de recommencer ses ablutions. Quelles que soient les raisons, dès qu'on a perdu raison, on se doit de recommencer les ablutions. Et d'abord, vous savez que les règles de l'islam, les lois de l'islam qui sont demandées, on vous dit toujours que parmi les conditions, il faut être musulman et doté de raison. À qui s'est demandé la prière, à qui s'est demandé le jeûne, à qui s'est demandé le pèlerinage, on commence par. À qui s'est demandé? On dit les catégories des gens à qui s'est demandé. Et on sort de là qui? Toute personne qui n'est pas dotée de raison. Elle est irresponsable. C'est pour ça qu'un fou est irresponsable. Il n'est pas responsable de ses actes. Khamisan, aklu lahm al-ibl. وقد سأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتوضأ من لحم الإبل قال نعم رواه مسلم. Cinquièmement, le fait de manger de la viande de chameau ou de chamelle. Un homme a questionné le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, dois-je recommencer mes ablutions après avoir mangé de la viande de chameau? Il lui dit oui, rapporté par Muslim. Bien que c'est une question où il y a une divergence depuis de longues dates entre les ulama et entre les madhahib. Entre les madhahib, c'est une question où il y a divergence. Mais, Inch'Allah, la vraie réponse sur cette question-là, et les dalils vont plus dans ce sens-là, c'est que ça annule les ablutions. Ça annule les ablutions. D'abord, au début, toute viande consommée qui a été cuite annulait les ablutions au début de l'islam. Au début, les Sahaba, radiallahu anhum, lorsqu'ils mangeaient un plat où il y avait de la viande cuite, ils devaient recommencer les ablutions. Que ce soit de la viande de chèvre, de mouton, de vache, et ainsi de suite. Il devait recommencer les ablutions. Min kulli ma massatuhu an-nar, tout ce qui était touché par le feu, c'est-à-dire qui a été cuit. Il s'est devait de recommencer. Puis, ça a été abrogé. Et il y a un compagnon qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dois-je recommencer l'ablution lorsque j'ai mangé la viande de chèvre? Et lui dit non. De mouton? Et lui dit non. Et à la fin, il lui dit, et de chameau? Et lui dit oui. Donc, la première règle, elle a été abrogée. Mais au début, c'était la règle. Elle a été abrogée. Et c'est cette réponse-là qui est là, la plus sûre dans cette question-là, c'est que de consommer de la viande de chameau annule les ablutions. C'est pour ça que lorsque vous êtes dans un endroit où vous savez qu'en général les gens consomment de la viande de chameau, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils ont dit, vont dire, j'en ai jamais mangé. Mais vous vous retrouvez dans des pays désertiques, que ce soit en Arabie ou en Afrique du Nord, mais plutôt dans le côté du désert, les gens consomment la viande de chameau, et bien il faut se renseigner. Là, est-ce que dans le plat, la viande qu'il y a, est-ce qu'elle est de chameau ou pas? Pour savoir, est-ce que les ablutions ont été perdues ou pas. ثالثا مس الفرج بشهوة جمعا بين الأحاديث وهو اختيار ابن تيمية في مجموع الفتاوى ونقله الألباني رحمه الله الجميع في تمام المنة في التعليق على فقه السنة للسيد صادق رحمه الله تعالى de toucher son sexe avec, en y cherchant un quelconque plaisir ou désir. Donc, pourquoi il dit ça? Il dit, en faisant cela, on a rassemblé entre les sexes. Parce que sur cette question-là, est-ce que celui qui a touché son sexe avec la paume de sa main, non pas le dos de la main, non pas derrière un quelconque obstacle comme un tissu, une serviette, un vêtement, non, directement le contact avec la paume de la main, est-ce que d'avoir touché son sexe annule les ablutions ou pas? Il y a trois grands avis sur cette question. Il y a une partie des savants qui ont dit ça annule les ablutions complètement. Qu'il ait touché son sexe pour y chercher un plaisir, ou il l'a touché comme il toucherait n'importe quel membre de son corps. D'autres ont dit, ça n'annule pas les ablutions complètement. Qu'il est touché pour telle ou telle raison, il n'y a pas de problème, ça n'annule pas ses... Chacun a des avis pour son point de vue. Il y a un homme qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai touché mon sexe avec ma main, les ablutions. Le prophète lui a dit, non, ce n'est qu'un membre de ton corps. C'est comme quelqu'un qui a touché son bras ou l'a touché sa poitrine, c'est un membre de ton corps. Et dans notre hadith, le prophète sallam a dit, ça annule les ablutions. Donc certains ont pris ce hadith-là, et d'autres ont pris d'autres hadiths. Là, le cheikh, il dit, mais lorsqu'il veut faire comprendre, il a dit, jam'an bayn al-ahadith, qu'il y a un souci. Ça veut dire, il y a un souci. Si on met en application un hadith authentique, mais on délaisse un hadith authentique, il y a un problème. Et celui qui mettra l'autre en pratique, il va délaisser ce hadith-là aussi. Donc le mieux, c'est de rassembler et essayer de comprendre pourquoi là, il faut recommencer les ablutions, et pourquoi là, ce n'est qu'un membre de ton corps, il n'y a pas besoin de recommencer les ablutions. Et la bonne réponse était que c'est là la troisième catégorie qui ont dit, comme Ibn Taymiyyah, rahmahullah, il a comme l'a cité, Cheikh Al-Albani, il y a bien d'autres, qui ont dit, on rassemble entre les textes, c'est que lorsque quelqu'un l'a touché, hein, il a fait sa douche, d'accord, il s'essuie, et il en arrive à toucher son sexe, c'est comme il a touché sa jambe, il a touché son corps, c'est un membre de son corps. Mais si jamais il l'a touché pour autre chose, pour chercher un quelconque plaisir, alors là, le fait de l'avoir fait avec cette intention-là, ça annule les ablutions. Là, on parle de toucher seulement. On ne parle pas qu'il y a quelque chose qui est sorti du sexe de la personne. Parce que là, ça c'est clair et net chez tout le monde que ça annule. On a vu tout ce qui sort par le devant d'air annuler les ablutions. Ma la yanqudu al-wudu, ce qui n'annule pas les ablutions. Alors là, le shir, hafizahullah, il va nous parler de certains points qui n'annulent pas les ablutions. Pourquoi? C'est une réponse à beaucoup de gens qui pensent que ce sont des choses qui annulent les ablutions. أولاً لمس المرأة بدون حائل لقول عائشة رضي الله عنها كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي متفق عليه. Le fait de toucher la femme directement, c'est-à-dire le contact est direct. Tu vas toucher sa main, une partie de son corps, ça n'annule pas, mais ce n'est pas quelque chose qui annule les ablutions. La preuve est la parole de Aïcha, radiallahu anha. Je dormais devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et mes pieds donnaient sur la qibla, en direction de la qibla, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Disons que là c'est la Qibla, le prophète s'en a pris comme ça, et son épouse elle était allongée comme ça. Et les pieds de son épouse ils étaient devant lui. Et lorsqu'il voulait se prosterner avec sa main, il poussait ses pieds. Les pieds de Aïcha. Il poussait ses pieds pour pouvoir se prosterner. Apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ça c'est une preuve forte comme quoi le toucher n'annule pas les ablutions. Parce que il y en a, et c'est connu surtout dans le madhhab Shafi'i, que le fait de toucher annule les ablutions, et ils prennent le sens littéral du Coran lorsqu'Allah a dit « Aula mastumun nisa » ou « lorsque vous avez touché les femmes ». Alors que là, la vraie explication de ce verset, c'est lorsque vous avez eu des rapports avec vos femmes, et Allah tabaraka wa ta'ala se permet de parler des rapports en citant des mots, d'autres mots que le mot rapport. Un mot qui veut dire les rapports, mais ce n'est pas le mot exact qui est employé. Donc il a dit là, mastoum, al-lam, c'est le toucher. Mais ici, ce qui est voulu, c'est les rapports avec son épouse. Thaniyan, khuruj al-dam min ghayri al-makhraj al-mu'tad. سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف قال الحسن رضي الله عنه ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم رواه البخاري. La sortie de sang. Et que ce soit à cause d'une blessure, que ce soit à cause de la saignée, al-hijama, la saignée, de faire sortir le mauvais sang, on appelle ça la saignée. Ou alors du nez, comment on appelle ça? Lorsqu'on a écoulement du sang du nez. Hein? Non, mais ça n'a pas un nom. Enfin, lorsque le sang coule du nez, hein, ça n'annule pas les ablutions. Cette sortie de sang n'annule pas les ablutions. Al-Hassan radiallahu anhu a dit, les musulmans n'ont cessé d'accomplir leurs prières avec leurs blessures. Avec leurs blessures, ils saignaient et ils faisaient, ils accomplissaient leur prière. C'est rapporté par Al-Bukhari. Ici, lorsqu'il dit Al-Muslimoun, il sous-entend les Sahaba, radiallahu anhum. C'était les Sahaba, les compagnons. Thalithan, Al-Qay. Troisièmement, le vomi. Le vomissement. De vomir n'annule pas les ablutions. Mais en l'occurrence, pour le jeûne, lorsqu'on jeûne Ramadan ou un jeûne surrogatoire ou un autre jeûne obligatoire, est-ce que ça annule le jeûne ou pas? Oui et non. Si il a vomi involontairement, ça n'annule pas sa journée. Et si il s'est fait vomir, il a vomi volontairement, ça annule son jour. Il devra rattraper un jour. Donc, pendant qu'on jeûne, on ne se fait pas vomir. Mais si on a vomi involontairement, malgré soi, ça n'annule pas, ça ne nuit pas au jour. Rabi'an, shakkul mutawaddi fil hadath. Quatrièmement, le doute de celui qui en est à l'ablution, est-ce qu'il les a perdus ou pas? Al mutawaddi, c'est celui qui avait les ablutions. Mais il a un doute. Est-ce que je les ai perdus ou pas? إذا شك المتوضي هل أحدث أم لا لا يضره الشك ولا ينتقد وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها حتى يتيقن أنه أحدث. Lorsque celui qui était en état d'ablution a douté, est-ce qu'il les a perdus ou pas? Ceci ne lui est pas nuisible. Et ces ablutions ne sont pas perdues, qu'il soit en état de prière ou en dehors de la prière. Il est en train de faire sa prière. Pendant sa prière, le doute lui est venu, mais au fait, avais-je toujours les ablutions ou pas? Est-ce que je ne les ai pas perdues? Ça ne nuit pas à sa prière. Et que ce doute lui est venu en dehors de la salat, ça ne nuit pas à ça, à sa prière. Bikhilaf, l'autayakkan al-hadath, wa shakka fi al-tahara ba'dahu, fal yaqinu huwa al-hadath. Mais contrairement à cela, si il est sûr qu'il n'était pas en état d'ablution, là c'est l'autre personne, il n'est pas en état d'ablution. Mais le doute qui lui vient, c'est est-ce que j'ai refait mes ablutions ou pas? Alors là, il se considère comme n'ayant pas les ablutions. Il devra les faire. La règle à retenir en cela, la certitude ne s'en va qu'avec une certitude semblable. La yazulu liyaqinu bishak. La certitude n'est jamais enlevée par le doute. Je suis sûr d'avoir mes ablutions. Le doute, c'est est-ce que je les ai perdues ou pas? Je considère que j'ai mes ablutions. Je suis sûr d'avoir été aux toilettes, d'avoir perdu mes ablutions. Mais je ne me rappelle pas si après je les ai faits ou pas. Je considère que je ne les ai pas faits. Et je vais faire mes ablutions. Et que quelqu'un n'ait pas à croire qu'il va trouver une idée que dans l'islam on n'a pas. Il dit, moi j'ai trouvé ce que les autres n'ont pas trouvé. Ou ce que les ulama n'ont pas trouvé. Il va se dire, mais c'est pas grave. Je vais refaire mes ablutions. C'est toujours mieux, par précaution. Cette personne, tôt ou tard, il deviendra malade. Parce que ça, c'est shaitan. Quand on a parlé pour l'ouas-ouas, la certitude n'est jamais enlevée par le doute. Ça, c'est une règle qu'il faut garder. Sadisen, tarsil al-mayyit. لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض وما صح منه عارضه ما صرفه للمجد. Sixièmement, de laver un mort. De laver le mort n'annule pas les ablutions. Il n'est pas obligatoire de refaire ses ablutions, car le texte qui parle de cela est faible dans la narration. Et ce qu'on a retrouvé comme texte authentique, il a été contré par d'autres textes qui montrent que ce n'est pas obligatoire. Mais comment on va rassembler? Ça prouve seulement que c'est quelque chose qui est recommandé. C'est bien, il est conseillé de recommencer ses ablutions pour celui qui a lavé le mort. Mais ce n'est pas une obligation. Le lavage du mort, en lui-même, n'annule pas des ablutions. Aussi, une chose importante, lorsqu'on apprend des règles de l'islam et qu'on énumère, par exemple dans un domaine, les piliers, les obligations, les recommandations, les annulations, on les énumère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà les piliers, voilà les obligations, voilà les annulations, voilà les actes conseillés. Ça veut dire quoi? Je vous descends tout doucement avec vous. Ça veut dire que ce qui n'a pas été énuméré dans les annulations, ça ne fait pas partie des annulations. Parfois tu viens, tu cites, il y a 6 choses qui annulent les ablutions. Tu as 50 questions. Est-ce que ça annule les ablutions? Est-ce que cette chose est dans la liste? Non. Donc ça n'annule pas. Facilitez-vous la tâche. Prenez les choses simplement. Lorsqu'on y réfléchit, tout est clair. المسح على الخفين والجوربين. Le fait d'essuyer sur الخفين. Ce sont comme des chaussons, des chaussettes en cuir, inconnues qu'on connaît là en cuir, on appelle ça الخفين. والجوربين, ce sont les chaussettes. Vous savez, les chaussettes. Ils appellent ça comment en français? Le fait d'essuyer sur. Il y a un nom, non? Ah, vous lisez beaucoup en français. Non, non, ça. Ouais, comment ils appellent ça? Effrôlement ou là? J'ai déjà vu ça un mot, non? C'est quoi? L'effleurement, ouais, mais bon, personne ne va comprendre. Bon, essuyer sur la chaussette ou les chaussures ou les chaussons. طيب. أولا دليل مشروعية المسح على الخفين. Premièrement, la preuve comme quoi il est bien légiféré d'essuyer sur al-khuffayn. ثبت المسح على الخفين بالسنة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو غيرها وأقوى الأحاديث حجة في المسح ما رواه البخاري وغيره عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضأ ومسح على خفيه. Donc il a été prouvé qu'on peut essuyer sur al-khuffayn d'après la sunna authentique reconnue d'après le messager sallallahu alayhi wa sallam, pendant les voyages et en dehors des voyages, que ce soit pour une raison, pour un besoin ou pas. Et parmi les plus forts délits, les plus forts arguments à ce sujet, ce qui a été rapporté par Al-Bukhari et d'autres, d'après Jarir ibn Abdillah radiallahu anhu qui dit, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam uriner, c'est-à-dire au loin, je l'ai vu uriner. Puis, il a fait ses ablutions et il a essuyé, il a passé ses mains en essuyant sur Al-Khufayn. Yarhamukallah. Thaniyan, mashru'iyyatul mas'h 'ala al-jawrabayn. Deuxièmement, comme quoi il est bien légiféré d'essuyer sur les chaussettes. Là, c'était pour Al-Khufayn. Là, on va parler des chaussettes. Parce que pour Al-Khufayn, en général, les imams, les chers, presque tout le monde le reconnaît. Il n'y a pas de grand souci là-dessus. Là où il y en a, ils ne veulent pas reconnaître, c'est pour les chaussettes. Ah, il y en a beaucoup, on les voit, ils ne veulent pas en faire pour les chaussettes. Donc là, il va nous parler des chaussettes. Qu'est-ce qu'on appelle les chaussettes? يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. Il est permis d'essuyer sur les chaussettes. Et ceci a été rapporté d'après beaucoup de compagnons. Qala Abu Daoud, dans les Sahib al-Sunan, l'imam Abu Daoud, qui a son livre Sunan, rahimahullah, a dit, wa masaha ala al-jawrabayni Ali ibn Abi Talib, wa ibn Mas'ud, yani Abdullah ibn Mas'ud, wa al-Barra ibn Azim, wa Anas ibn Malik, وروي ايضا عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم اجمعين. Alors qu'est-ce qu'il dit l'imam Abu Daoud rahimahullah, et a essuyé sur, ont essuyé sur les chaussettes Ali ibn Abi Talib et Abdullah ibn Mas'ud et Al-Barra ibn Azib et Anas ibn Malik, et ceci a été aussi rapporté d'après Omar ibn al-Khattab et Abdullah ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de surtout les compagnons. Wa fi tahdhib as-sunan l'ibn al-Qayyim an ibn al-Munthir أن أحمد يعني أحمد بن حنبل رحم الله الجميع نص على جواز المسح على جوربين، وهذا من إنصافه وعدله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وصريح القياس، وممن أجاز المسح على الجوربين سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعطاء بن رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب. وقال أبو يوسف يعني القاضي أبو يوسف يعقوب ومحمد يعني محمد بن الحسن الشيباني من أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة رضي الله رحمه الله الجميع، قال أبو يوسف ومحمد يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين لا يشفان عما تحتهما، وكان أبو حنيفة لا يجوز المسح على الجورب الثخين ثم رجع إلى الجواز قبل موته بثلاثة أو أربعة أيام أو بسبعة، ومسح على جوربيه الثخينين في مرضه، وقال لعواده فعلت ما كنت عنه أنهى. Dans l'ouvrage Tahdhib as-Sunan, le résumé ou le sommaire des Sunan d'Abu Daoud, rahimahullah, d'Ibn al-Qayyim, de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il rapporte d'après Ibn al-Mundhir, l'imam Ibn al-Mundhir, rahimahullah, qui dit que Ahmed, l'imam Ahmed Ibn al-Hanbal, rahimahullah ta'ala, a précisé qu'il était permis d'essuyer sur les chaussettes. Et ceci fait partie de sa bonne reconnaissance de cette règle. Et son argumentation à cela, c'est l'agissement de ses compagnons, radiallahu anhum. Et aussi, la comparaison par analogie, c'est-à-dire par rapport à Al-Khufayn. Ça ressemble à Al-Khufayn. Et parmi ceux qui ont permis d'essuyer sur les chaussettes, il y a des grands imams des premières époques comme Soufiane al-Thawri et Abdullah ibn al-Mubarak et Ata ibn Rabah et Al-Hassan al-Basri et Saïd ibn al-Musayyib et Abu Yusuf al-Qadi, Abu Yusuf Yaqub et Muhammad, c'est-à-dire Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, les deux plus grands élèves de l'imam Abi Hanifa rahimallahu al-Jami'a. Ils ont dit: il est permis d'essuyer sur les chaussettes lorsque le tissu il est fort et qu'ils ne sont pas transparents. Et Abu Hanifa, leur maître, leur professeur, ne l'acceptait pas, ne voulait pas accepter qu'on puisse essuyer, passer les mains, se mouiller sur les chaussettes. Puis il est revenu sur son opinion et il l'a permis avant de mourir, 3 jours avant, ou 4 jours, ou 7 jours. Là, c'est le rapporteur, il a un doute. C'est-à-dire quelques jours avant sa mort, rahimahullah. Et il a essuyé sur ses chaussettes pendant sa maladie. Et il a dit à ceux qui lui rendaient visite: je fais ce que j'interdisais auparavant. Ce que je ne permettais pas auparavant, maintenant je me retrouve à le faire parce que maintenant il le permettait. Wa ali al-Mughira ibn Shu'bah رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره، والترمذي قال حسن صحيح. Et d'après المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a accompli ses ablutions et il a essuyé sur ses chaussettes ainsi que sur ses chaussures. est المسح على الخفين. Cette question, on la retrouve dans des livres de aqida. Dans des livres de aqida, de croyance et de dogme. Et dans des livres de usul ahl sunnati wal jama'a. Des livres qui parlent de l'aqida et des fondements de base d'ahl sunnati wal jama'a. Ce sur le chemin sur lequel sont ahl sunnati wal jama'a. Celui qui dit le contraire de ses fondements de base ne fait pas partie de la sunnati wal jama'a, des règles de base. Et il ramenait parmi ces règles al-mashu ala turabain. Alors que vous allez nous dire, c'est une question de fiqh. Pourquoi? Parce que c'est une question où toute la ummah, les ulama, les imams de sunna ont reconnu. N'ont été à l'encontre de cela que les chiites, qui n'ont rien à voir avec la sunna. Et comme on a vu pendant le cours des ablutions, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils essuient les pieds. Ils lavent pas les pieds, ils essuient. Ce qui n'existe pas chez le sunna. On lave le pied nu. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils interdisent de passer les mains mouillées sur les chaussons. Et donc les ulama ont pris cette question et l'ont mis dans l'aqida. Et dans les fondements de base de l'ahlus sunnati wal jama'a. Donc ne soyez pas étonnés que vous le retrouvez, c'est parce que c'est une question que lorsque quelqu'un ne la reconnaît pas, c'est qu'il a un problème dans sa conviction et il a un problème dans sa sunna. Les ulama de la sunna sont unanimes là-dessus. Et même dans la lecture du verset coranique, on en a parlé un peu longuement la dernière fois, et que même dans la lecture où les pieds et les têtes prennent la même règle grammaticale, les ulama, ils ont aussi, parmi les explications qu'ils ont données, ils ont dit que même si on le lit comme ça, comme pour les pieds, on a dit c'était wa arjulakum, mais même si on lit wa arjulikum, eh bien il est sous-entendu quoi? Du fait d'essuyer sur les chaussons. C'est comme si il était sous-entendu dedans qu'il y a une règle, au lieu de laver les pieds, on peut se permettre de d'essuyer sur les chaussons. Ce n'est pas vraiment bien clair, mais c'est sous-entendu. Ça, c'est une aussi des explications de ce verset coranique. Shurut al-mas' al-khufayni wal-jawrabayn. Les conditions concernant le fait d'essuyer sur les chaussons ou sur les chaussettes. Awalan, on a vu que c'est permis, que c'est légiféré, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles à respecter. Il y a des règles à respecter, il y a des conditions pour pouvoir le faire. Awalan, yushtaratu li jawazi al-mashi alayhima an yalbisahuma ala wudu. Premièrement, il est de condition pour pouvoir essuyer sur ses chaussons ou sur ses chaussettes, de les avoir mis, de les avoir enfilés en état d'ablution. En état d'ablution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en état d'ablution? À titre d'exemple, je viens de faire mes ablutions, j'ai lavé mes pieds et j'ai mis mes chaussettes ou j'ai mis mes chaussons. Donc, la prochaine fois que je perds mes ablutions, il m'est permis, j'ai la condition de pouvoir essuyer. J'ai accompli mes ablutions, j'ai lavé mes pieds, et j'ai toujours mes ablutions plusieurs heures après. Puis j'ai mis mes chaussettes, en étant en état d'ablution dans lequel j'ai lavé mes pieds. Et bien c'est pareil, lorsque je perdrai mes ablutions, et bien j'ai la première condition qui me permet de pouvoir essuyer sur les chaussettes ou les chaussons. Alors, ce n'est pas demandé que les chaussettes on les ait mis juste après les ablutions. L'essentiel, c'est d'être en état d'ablution, une ablution dans laquelle on a lavé les pieds. Voilà, ça c'est la première condition. Thaniyan, mahallul mas'h. Deuxièmement, l'endroit même où on doit essuyer. Parce que la question, on peut se la poser. Est-ce qu'on essuie tout le pied comme on le lave? Ou est-ce qu'on essuie que le dessous du pied? Ou est-ce qu'on essuie que le dessus du pied? Est-ce qu'il y a une manière bien précise de manier les mains sur les pieds? C'est des questions que la personne peut se poser. المحل المشروع في المسح ظهر الخف للحديث الآتي عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود والدارقطني وإسناده صحيح. Donc, le lieu, l'endroit qu'on doit essuyer, qui est légiféré, c'est le dessus de la chaussette ou de l'khouf. C'est le dessus. D'après Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui dit, et ça, il faut bien la retenir, c'est une règle dans la religion. Une règle dans tous les domaines, il faut la retenir. Mais là, Ali, il nous l'a ramené pour essuyer sur Al-Khouf. Il dit, si la religion était de suivre la raison, d'essuyer le bas du pied aurait été plus logique que d'essuyer le dessus. Si on vient réfléchir, si on essuie, c'est pour enlever les saletés, et ainsi de suite. Le haut du pied ne se salit pas. Il ne touche pas le sol. Qu'est-ce qui touche le sol? C'est le bas du pied. C'est le creux du pied, c'est ce qui touche le sol. Mais il nous est demandé d'essuyer le dessus. Donc Ali a dit quoi? Si la religion était le fait de suivre la raison, le rationnel, eh bien, d'essuyer le bas du pied aurait été plus logique que d'essuyer le dessus. Alors regardez comment il termine cela. Mais j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, essuyer sur le dessus. J'ai vu le messager d'Allah, je mets ma raison de côté. Je mets ma logique de côté. Subhanallah, c'est une règle. Et combien de sectes sont nées à cause de ça? Parce qu'ils n'ont pas voulu mettre en application cette règle. Parce qu'ils ont trouvé des textes qui n'allaient pas en conformité, entre guillemets, avec leur raisonnement, mais qui sont mauvais. Mais qu'eux pensent qu'ils sont bons. Ils pensent qu'ils ont une façon de penser que même un prophète n'a pas atteint. Certains. Comme les philosophes. Les philosophes qui sont un exemple pour certains, mais pas pour nous. Et si jamais quelqu'un me dit, mais ils ont des sagesses qui sont bien, sachez qu'on les retrouve dans les textes religieux. Alors on les retrouve dans les textes religieux. Ils n'ont rien ramené de nouveau. Mais eux, ils ont pensé qu'ils ont atteint un degré dans la réflexion. Et ils se sont dit, on n'a pas besoin des prophètes. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a eu raison d'eux lorsqu'il a dit, les plus ignorants dans le domaine divin, ce sont les philosophes. Ce sont les plus ignorants dans le domaine divin. Donc, la raison, je ne dis pas, il faut la rejeter, qu'elle n'existe pas, qu'on ne s'en sert pas, si. Mais à la fin, il ne faut pas oublier que c'est une créature. Et qu'elle est finie, est limitée. Tout est limité dans la créature. L'illimité et la perfection totale appartient au Seigneur subhanahu wa ta'ala. Mais dans la créature, tout est limité, tout est fini. Donc, un bon raisonnement ne va jamais à l'encontre d'un texte authentique. Et c'est pour cela qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a un grand ouvrage en plusieurs volumes que sur cette question-là, qu'il a appelé « Dar'u ta'arud al-aql wal-naql » que la raison ne va pas à l'encontre du texte. La raison ne va pas à l'encontre du texte. Un ouvrage où il discute les gens qui ont dévié dans ce domaine-là. Et parmi les sectes musulmanes qui se sont engagées dans ce domaine-là, il y a ce qu'on appelle Al-Mu'tazila. Et leurs héritiers d'aujourd'hui, ils ont des héritiers aujourd'hui, même s'ils ne portent pas le même nom. Mais ils se ressemblent et ils ont la même façon de penser. À titre d'exemple, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'une mouche tombe dans le verre de l'un d'entre vous, qu'il la trempe entièrement dedans et qu'il la ressorte. Car il a deux ailes. La mouche elle a deux ailes. L'une elle a un poison, l'autre elle a la guérison. Et tu ne sais pas laquelle des deux. Donc il t'a dit, trempe-la, il sort là. Il n'y a pas de problème. Il y en a, ils ont dit, ce genre de hadith fait fuir les gens. C'est en rapportant ce genre de hadith que les gens ne rentrent pas dans l'islam. Voilà. Non, c'est des choses qui se disent. On ne peut pas accepter ça. Pourquoi? Parce que la chaîne de l'Ansoir est faible? Non. Ils savent qu'elle n'est pas faible. Ils savent que les ulama de l'hadith ont dit que c'était authentique. Mais leur raison, elle n'accepte pas. On ne peut pas. Et parmi eux, vous en avez, et qui sont lus par certains. Qu'est-ce qu'il dit? Dans son introduction, il dit, il m'arrive de mettre en application des hadiths, alors que chez les ulama de l'hadith, ils sont faibles, mais ils sont en conformité avec ma raison. Et il m'arrive de ne pas mettre en application des hadiths qui peuvent se retrouver dans le Bukhari, parce qu'ils ne sont pas en conformité avec ma raison. Ils se mettent des règles. Subhanallah. Et ça, c'est très grave. Le musulman sincère, il a une confiance totale en son Seigneur, ainsi qu'en son prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. L'essentiel, c'est de vérifier l'authenticité du texte. Lorsque les ulama du hadith, après vérification, étude, nous disent il est authentique, le hadith, on le prend. Notre raison, si elle est bien éduquée, il n'y a pas de souci. Si elle a du mal, tu mets de côté ta raison et tu t'en remets à la religion. Et c'est pour ça que le Mu'tazila se sont formés lorsqu'ils ont dit sur le bien et le mal. Qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal? Quelle est la balance qui nous permet de dire que telle chose allait bien et telle chose allait mal? C'était une discussion. Ulama sunna, ils ont dit Al-Husnu ma hassanahu shara. Le bien, c'est ce qui a été rendu bien par la religion. Et le mal, c'est ce qui a été rendu mal par la religion. Al-Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils ont dit? Al-husnu ma hassanahu al-aql, wal-qubhu ma qabbahahu al-aql. Le bien, c'est ce que la raison rend bien, et le mal, c'est ce que la raison rend mal. Yani, les gens en sont arrivés presque à adorer la raison. Alors que c'est une créature. Allah nous dit, pour des gens dotés de raison, pour des gens qui réfléchissent, on se doit, c'est un outil, on s'en sert, mais on se doit de s'en sortir, de s'en servir convenablement. Une raison qui n'a pas été corrompue, qui est saine, elle n'aura pas de problème à accepter les choses. Parce qu'à des fois, c'est parce que il y a une éducation qu'a vécu la personne, il y a des études qu'a fait cette personne, des lectures, des rencontres, et tout ça rentre dans sa tête et ça se mélange. C'est pour cela qu'après, face à ce qu'il entend et ce qu'il voit, il y a une réaction, comme ci, comme ça, à cause de cela. Parce que la raison, elle a été corrompue. La pensée, elle a été corrompue. Mais quoi qu'il arrive, dès que vous avez un souci, qu'est-ce que je dois mettre de côté? Ma raison et non pas le texte religieux qui est authentique. Donc, mais il faut que le texte soit authentique. Le texte est authentique et une bonne raison ne va jamais à son encontre. Troisièmement, la durée, la période de validité de le mettre, faites d'essuyer. توقيت المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة رواه مسلم. Donc, la durée de validité, la période de validité du masḥ sur Al-Khuffayn, pour le citadin, celui qui n'est pas en état de voyageur, qui n'est pas voyageur, c'est une journée avec sa nuit. c'est-à-dire 24 heures. C'est-à-dire 24 heures. Et pour celui qui est en état de voyage, le voyageur, c'est 3 jours avec ses nuits. 3 jours avec ses nuits. C'est-à-dire 72 heures. C'est-à-dire 72 heures. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, pour le voyageur, 3 jours avec ses nuits, et pour le citadin, 1 jour avec sa nuit. Rapporté par Muslim. Un point essentiel. Quand est-ce qu'on commence à compter la durée? Est-ce que c'est lorsqu'on a mis les chaussettes? Ou alors lorsqu'on a commencé la première fois à essuyer sur la chaussette ou le chausson? C'est lorsqu'on a commencé à essuyer sur la chaussette ou le chausson. Quand on a commencé à essuyer, on se rappelle. J'ai commencé à m'essuyer pour la prière de Zohor. Pour la prière de Zohor. Donc, l'Asr, le Maghrib, l'Isha, il n'y a pas de problème. Je perds mes ablutions. Je peux essuyer. Le lendemain matin, j'ai dormi avec mes chaussettes. Je me lève, je peux essuyer pour le Fajr. Pour la prière de Zohor, non. Je dois enlever et laver mes pieds. Parce qu'il y a eu 24 heures. Parce qu'il y a eu 24 heures. C'est assez simple à retenir. C'est d'une prière à la même prière du lendemain. À la même prière. Et pour le voyageur, la facilité est encore plus grande pour lui, et bien c'est 72 heures, pendant 3 jours, avec ses nuits. 72 heures. Aujourd'hui, à l'heure de Fajr, j'ai essuyé, je commence à compter. Demain, à l'heure de Fajr, ce sera 24 heures. Le lendemain, 48 heures. Le lendemain, 72 heures. Donc pour ce Fajr-là, je devrais laver mes pieds. Je devrais laver mes pieds. Est-ce que vous avez bien compris? Comment on compte? Voilà. رابعا صفة المسح quatrièmement la manière d'essuyer المتوضي بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو الجورب يصح له المسح على عليه كلما أراد الوضوء بدلا من غسل رجليه فإذا أجنب وجب عليه نزعه للغسل من الجنابة. Donc, celui qui accomplit les ablutions, après bien avoir accompli ses ablutions, et qu'il a mis un khouf ou il a mis la chaussette, il lui est permis d'essuyer dessus toutes les fois qu'il aura à refaire ses ablutions au lieu de laver ses pieds. Achat, il pourra, tant qu'il est dans sa durée de validité. Mais, si jamais il est en état de janaba, de grande impureté, de grande souillure, ce qui demande normalement quoi? Al-ghusl, lavage du corps, la douche, alors là, il se doit d'enlever les chaussettes. Hein, parce que dans le ghusl, il n'y a pas de masr. Al-ghusl, il n'y a pas de masr. Masr n'existe pas dans le ghusl. Et on a vu que, avec vous, non, donc je vous laisse parce que je ne l'ai pas dit avec vous. Donc, pour le ghusl, pour le lavage du corps, lorsqu'on prend la douche, alors là, on n'a pas à rester avec les chaussettes, mais avec les chaussons. On se doit de laver les pieds. Sinon, pour essuyer, il n'y a pas de manière bien précise à essuyer le dessus. On a vu qu'il faut essuyer quoi? Le dessus. L'essentiel, c'est de passer les mains. De passer les mains sur les pieds. Hein, les mains mouillées. Hein, les mains mouillées, comme pour essuyer la tête, on se mouille les mains, et bien on se mouille les mains, et on passe sur les chaussettes. On part du haut des orteils, et on monte, c'est tout. Comme ça, et c'est tout, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'aller chercher la cheville, il n'y a pas besoin de tourner avec sa main, non. On passe comme ça, et c'est bon. Il est permis de le faire en même temps. De le faire en même temps. Les deux mains mouillées, sur le haut du pied. Et il est permis de le faire une fois la droite et après la gauche. Et on ne le fait qu'une seule fois. On vous avait dit la règle. Comme ça, vous la retenez. C'était quoi la règle? Quand, dans les ablutions, ce qu'on doit essuyer, c'est combien? Une fois. Et ce qu'on doit laver, c'est là où il y a trois fois. Donc comme ça, vous retenez bien cette chose-là. Taïb. Khamisen, cinquièmement, ما يبطل المسح. Ce qui annule المسح. أولا انقضاء المدة. Lorsque la durée, elle est passée. La période, elle est passée. On ne peut plus. Et je suis sûr. ثانيا, deuxièmement, الجنابه. La grande impureté. Qui demande à l'Rusul. ثالثا, نزع الخوف. On a enlevé les chaussettes ou les chaussons. Alors, on a le droit d'essuyer sur les chaussettes, sur les chaussons, mais il nous est arrivé de les enlever. Il nous est arrivé de les enlever. Après qu'on ait fait des ablutions, on a essuyé. On a essuyé. On les a enlevés. En les enlevant, on n'a pas perdu les ablutions. Vous voyez ? On les a enlevés, on les a remis. On est rentré dans une mosquée où on nous demande d'enlever les chaussettes. Bon, pour pas faire de problème, on les a enlevés. Donc, on les a enlevés, on n'oublie pas. On se rappelle, je les avais enlevés. Je suis rentré à la maison, je les ai enlevés, mais je n'ai pas perdu mes ablutions. J'ai pas eu quelque chose qui annule mes ablutions. Et puis après, je les remets. Je les remets. Et je dois refaire mes ablutions. Eh bien, il faut que je lave mes pieds. Pourquoi ? Parce que la dernière fois que j'ai remis mes chaussettes, c'était après des ablutions où j'avais essuyé dessus. On ne peut essuyer que lorsqu'on a mis des chaussettes après avoir lavé les pieds. Est-ce que vous avez bien retenu ça ? Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.